Bonsoir Jean Lassalle.
Bonsoir.
Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation dans le quartier jaune. Alors là, vous avez une journée difficile, enfin une retournée. Hein, entre Bastille l'après-midi, TF1 pour le 20h, et là ce soir, disons-nous, vous étiez en meeting avec vos partisans. Là ce soir, il est quelle heure? Il est minuit.
Oui, c'est pas la première, il reste 5 heures demain. Et puis personne ne m'a poussé avec une mitraillette à me présenter.
Tout à fait.
Donc je l'ai fait pleinement, consciemment. Et au fond, c'était une journée difficile, mais on les vit à peu près toutes de la même manière. C'est aussi de magnifiques journées qu'on a la chance de vivre dans une vie d'êtres humains, d'hommes tels que nous. C'est formidable. C'est surtout des journées riches de rencontres avec des hommes, des femmes qui sortent de l'ordinaire, que malheureusement on a totalement oublié, qu'on a placé sur le boisseau, surtout pour qu'ils ne disent rien. Et c'est à cela que notre dictature molle est si dangereuse et destructrice, c'est que Staline était obligé de déporter ses opposants ou pseudo-opposants en Sibérie. Les Américains à Guantanamo. Nous, on a trouvé mieux maintenant avec cette dictature molle. On te déporte nulle part. On attend que tu te dessèches tout seul sur place.
Alors,
et que tu finisses par ne plus rien dire.
D'accord. Alors pourquoi vous parlez de dictature?
Vous
pensez que la campagne électorale est inéquitable, que vous n'avez pas eu suffisamment accès aux médias mainstream ou...
Bon, j'ai eu accès aux médias le jour où j'ai ramené ma gueule, et puis je leur ai dit qu'il était établi que nous, les politiques, nous étions des lâches depuis une trentaine d'années, mais qu'il était maintenant évident que les médias l'étaient devenus au moins autant que nous. Et que c'était un contexte où chacun essayait de sauver son petit précaré, surtout pas sortir de sa zone de confort, de peur des représailles. Et quand on est dans cet état d'esprit-là, c'est qu'on est en dictature, puisqu'on n'est pas libre, comme le décrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'entreprendre ce qu'un homme et un citoyen doivent normalement entreprendre. En fait, c'est venu de... cette concentration sans précédent, il y en a eu d'autres, mais de finances hyper organisées, détenues par très peu de mains, en France ils sont 4 ou 5 à tout détenir, et ils s'entendent en plus. Et dans le monde, il y en a une cinquantaine, le tout relayé par les plus grandes puissances bancaires, mais surtout les paradis fiscaux qui abritent tout ce joyeux monde. Et à partir de là, ils ont tout pris, ils n'ont rien laissé à l'espace public qui permettait de fonder liberté, égalité, fraternité, et aussi des services publics, notamment à la française. Donc à partir de ce moment-là, nous sommes comme un troupeau d'hommes disséminés courant dans tous les sens, comme après le passage d'un tsunami. Il n'y a plus de relations. Les États disparaissent, tombent, les peuples aussi, et il est temps que nous redevenions un petit peu des citoyens pour que l'homme retrouve l'homme.
Oui,
et que l'homme retrouvant l'homme reconstruise le peuple.
Il y a des élections. Donc comment peut-on dire qu'il y a une dictature alors qu'il existe des élections?
Les élections sont jouées d'avance. Dans la mesure où on a réussi à écœurer à ce point l'électeur citoyen, à force de jurer au mois de mai et de se parjurer dès le mois de juin. C'est ce que nous faisons depuis plusieurs mandats. En plus, la juxtaposition entre le mandat d'élection du président et celle de l'Assemblée nationale fait qu'il n'y a plus de respiration démocratique. Le peuple n'est plus concerné. Ce qui fait que il fait quand même son boulot, il fait ce qu'il peut, le peuple. Donc il fait venir une majorité, puis il l'éjecte entièrement, président en tête, au bout de 5 ans. Mais ce n'est pas du boulot, parce que pendant ce temps, il ne se passe rien. Et surtout, on renforce les positions de cette dictature.
Oui, enfin, le fait d'aligner le mandat de 5 ans sur celui du président, le mandat législatif, fait qu'on est plus dans un régime présidentiel.
Ben oui, puisque le président, pourquoi veux-tu qu'il dissolve, puisque tout va très bien. Les députés, mets-toi à la place, 5 ans devant soi, tu vas pas les jouer les malins, tu attends que ça se passe. Voilà. Donc ça ne peut pas fonctionner, parce que ce n'est pas l'intérêt du peuple. Or la politique demande une certaine forme de grandeur, demande aussi une forme de dignité, sens de l'honneur. Et lorsque tu te bats pour des idées, eh bien, encore faut-il les présenter, dire en quoi elles sont différentes des autres, et puis ensuite t'engager à fond. Et le mandat n'est pas un métier. Le mandat, c'est le choix du peuple, comme aurait dit Platon et avant lui Socrate. C'est le choix du peuple qui choisit ceux qui réfléchiront en son nom et puis ensuite géreront les affaires de la cité en son nom.
Alors Jean Lassalle, vous êtes député depuis combien d'années ?
Je suis député depuis 20 ans.
Donc c'est un métier la politique ?
C'est un métier parce que j'ai été réélu, mais avant d'être député j'ai été berger. Et après avoir été berger, j'étais ingénieur conseil. Moi, je n'étais pas un ingénieur conseil aussi fortuné que le cabinet de conseil américain, mais qui conseille les présidents, et jusque dans l'intime. Moi, j'étais ingénieur conseil, comme il y a des architectes conseil, comme il y a des cabinets dont on a besoin, mais qui n'ont pas un retentissement politique. Donc j'ai justement voulu avoir une activité non politique pour pouvoir rester le plus indépendant possible de la décision politique. Ça vient de mon père qui était berger, qui connaissait pas grand-chose à la politique, et qui m'avait dit « faire de la politique, je te trouve bien courageux. Hein. En tout cas, si tu veux en faire, fais en sorte de gagner ta vie et de payer toi-même tes campagnes, sinon tu ne pourras rien dire. » Et si un monsieur vient un jour pour t'apporter une somme d'argent sans que tu saches pourquoi il te l'apporte, fais très attention. Tu vas dépenser la somme très facilement, tu oublieras le monsieur, mais il te retrouvera, et ce sera pas forcément le jour qui t'arrangera le plus.
Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Au mois de novembre 2018, vous avez soutenu le mouvement des Gilets jaunes, puisque vous avez arboré à l'Assemblée nationale le Gilet jaune. Et je voulais savoir... qu'est-ce qu'ont pensé les autres députés, ou est-ce que vous avez eu des retours à l'époque ?
La plupart des autres députés ont plutôt apprécié, parce que c'est quand même une époque où le mouvement a été soutenu par près de 80%.
Oui, mais je ne suis pas sûr que les députés soutenaient le mouvement.
C'est toute la différence. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que j'avais fourré dans mes poches, dans mon cartable, une bonne douzaine de gilets jaunes, parce qu'ils tiennent pas beaucoup de place quand ils sont bien pliés. Ouais. Et je les avais fait circuler juste avant que je remette le mien, mais sans faire trop de bruit, parce que si j'avais été découvert, bien entendu, j'aurais jamais pu le faire. Il fallait que l'effet de surprise joue à plein. Et puis c'était le moment où le ministre de l'Intérieur de l'époque, Castaner, devait prononcer un discours très dur pour condamner avec une immense fermeté les gilets jaunes et d'une certaine manière les mettre hors jeu avec l'appui de toutes les télévisions bien entendu financées par ces gros consortiums financiers et moi je me suis dit si je laisse faire ça ça leur laisse plus aucune respiration et j'avais dit et expliqué à tous mes collègues députés mais les gilets jaunes c'est nos électeurs. Les ronds-points, ils ça chez nous. Puis allons-y, et parlons. On a une occasion rêvée de retrouver manière à discussion, à débattre, à écoute. Il y a un tel déficit d'écoute dans ce pays que si nous y allons, ça se passera très bien. Mais voilà, ça n'a pas été le cas. Et mon action de Gilets jaunes a été extrêmement mal vécue, extrêmement, comment je devrais dire, suscité à mon égard un rejet sans précédent. Voilà, c'est de l'autre côté, c'était aussi la seule manière de relayer, parce que s'il y a un lieu où cette action devait être relayée, c'est précisément l'Assemblée nationale qui est le lieu de la représentation du peuple souverain.
Alors justement, en parlant des Gilets jaunes, vous avez repris dans votre programme présidentiel des mesures que préconisaient les Gilets jaunes, notamment le RIC, référendum d'initiative citoyenne. Il y a quelques jours, en fait, vous êtes engagé devant un notaire, vous allez nous expliquer, à engager un processus relatif au RIC constituant. C'est-à-dire, en fait, vous préconisez de faire un référendum pour modifier la Constitution. C'est bien ça.
Voilà.
Vous voulez changer de République ou pas?
Comment?
Vous voulez changer de République? Est-ce que vous voulez changer de République? Est-ce qu'il faut abolir la Ve République et construire une Sixième République candidat Jean-Luc Mélenchon?
Je n'en suis pas certain. Je n'en suis pas certain parce que j'ai pu regarder avec le peu de culture et d'histoire que j'ai que c'est très très lent de construire une République. C'est très lent. Et je me dis, est-ce que ce n'est pas du temps de perdu au détriment de ce dont il a été beaucoup question ce soir, c'est-à-dire de la démocratie, c'est-à-dire du débat, du véritable débat, et au fond, de la libération du citoyen, pour qu'il puisse prendre lui-même plus en charge ses propres intérêts et responsabilités. Alors moi, j'ai choisi plutôt de reprendre l'État, mais de le reconstruire pour l'adapter à notre temps, quelque chose de beaucoup moins lourd, de beaucoup plus proche des citoyens, puisque la France s'est depuis très longtemps, retrouvé sous l'égide de l'État. À tort ou à raison, mais c'est un symbole qui était solide, à tel point qu'on disait l'État c'est bon. Si maintenant vous trouvez quelqu'un qui vous dit l'État c'est moi, amenez-moi sa photo pour que j'aille voir à quoi ressemble ce monsieur-là. Voilà. Donc nous avons ruiné tellement la confiance que nous avions avec nos compatriotes que je me suis rendu compte qu'il ne suffisait plus de dire « je vais faire ça pour qu'on soit cru ». Je l'ai très vite senti. Et je suis tombé sur Daniel qui m'a interpellé, qui m'a invité à me rendre au village du RIC.
Oui, Daniel. Il s'appelle Daniel, je crois.
Daniel, voilà, je m'appelle Daniel, je ne sais pas comment il s'appelle d'autre. Et c'est ce que j'ai fait. Ça a été la réunion la plus tardive, certainement l'une des plus, pleines, prégnantes de ma campagne, où j'ai vu là des dizaines, alors qu'il était presque 3 heures du matin, d'hommes et de femmes se revendiquer d'appartenir du village, de la commune où était né le RIC. Je me suis dit, c'est quand même tout à fait exceptionnel. Donc j'ai pris l'engagement d'engager dès mon élection le processus qui conduira à l'adoption de ce RIC, qui pourra ainsi servir à consulter la population, c'est-à-dire le peuple, c'est-à-dire les citoyens, dès lors qu'il recevra 700 000 signatures, et de le faire dès mon élection, avant même l'attente de l'organisation des élections législatives. Alors j'ai voulu quand même voir si j'avais le droit de le faire, parce que c'est pas la peine de dire quelque chose qui aurait été sur lequel on pourrait dire non, vous n'avez pas le droit, etc. Bon, vous pouvez. Et puis ensuite, nous avons décidé de franchir un cap de plus pour bien enfoncer dans les esprits que c'était vraiment un engagement impératif. Nous avons décidé de le préparer devant notaire. J'ai dit à Daniel et à ses amis, bah, écoute, dites comment vous voyez. Et puis, il est venu à travailler avec le notaire un certain nombre de jours. Et dimanche dernier, j'avais mon meeting à Pau. Et le notaire, lui, était très pris, je ne sais pas ce qu'il avait, un repas de famille. Il est quand même venu. Et puis, il a lu devant de nombreux médias nationaux, français, ce qui avait été mis au point, ce sur quoi nous étions fondés, et qui reprend, en réalité, le fait que si je ne tiens pas mes engagements, eh bien, je renonce à mon patrimoine.
Tout à fait, vous avez hypothéqué votre patrimoine.
J'ai complètement hypothéqué mon patrimoine, et je le mettrai à disposition d'une agriculture paysanne, dont on a défini un peu les contours, pour que il ne puisse pas y avoir forme d'engagement plus fort que celui-là.
Alors, il y a Jean-Luc Mélenchon, parce qu'apparemment beaucoup, alors je ne dis pas que c'est votre cas, puisque vous avez vêtu le gilet jaune à l'Assemblée nationale en novembre 2018, mais on a le sentiment qu'on se dispute l'électorat gilet jaune. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon lui propose l'amnistie des infractions commises par les gilets jaunes, la création d'un fonds d'indemnisation pour les blessés gilets jaunes. Je voulais savoir ce que vous pensiez de cette mesure. Est-ce que vous êtes pour l'amnistie des gilets jaunes?
Oui. Sauf si il y a des... Parce que j'ai trop souffert, j'ai participé pratiquement à toutes les manifestations.
D'accord.
Et moi, ce qui m'embête, parce que j'avais demandé à ce qu'une commission d'enquête soit organisée, elle n'a jamais été. Je voulais savoir quand même qu'est-ce que c'était ces hommes noirs qui pénétraient là comme dans un boulet. Et puis, je les ai vus tellement de fois. Au bout d'un moment, se mettaient par groupe, par quatre ou cinq, deux ou trois d'entre eux mettaient la rage d'un policier ou d'un gendarme et tapaient sur des gilets jaunes, tandis que d'autres prenaient un gilet jaune et puis se mettaient à taper sur des policiers, ce qui déclenchait évidemment des émeutes, des bagarres à n'en plus finir. Donc j'ai été obligé de ça. Donc eux, je voudrais voir leur dossier. Pour les autres, je me ferai porter le dossier immédiatement. Et bien entendu, je libérerai dans les meilleurs délais, c'est-à-dire tout de suite, tous ceux qui, à mes yeux, sont des héros et non pas des hommes à mettre en prison.
D'accord.
Alors, par rapport à Jean-Luc Mélenchon, sur ce plan-là, il n'y a pas de différence notoire. Il a lui aussi défendu les gilets jaunes. Écoutez, c'est un électeur de trajet. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une place et que c'est difficile de satisfaire. Mais de notre côté, c'est bien aussi, je pense, pour la démocratie, qu'il y ait deux hommes qui, comme par hasard, sont les deux les plus expérimentés de l'équipe 2022, des 12 candidats que nous sommes, qui est un point de vue identique.
D'accord, alors c'est la seconde fois, hein, je crois, que vous vous présentez à la présidentielle. Quelle différence par rapport à 2017?
En 2017, j'avais été assassiné. J'ai été assassiné d'entrée. C'est-à-dire que d'entrée, on m'a... Alors que j'étais hyper connu, beaucoup plus connu qu'aujourd'hui, hein, beaucoup plus populaire. J'avais fait le tour de France, j'avais fait le tour d'Europe. J'étais très connu dans le monde entier. Je participais régulièrement à un très grand forum international qui s'appelait Crans-Montana. Donc j'étais très connu partout. Mais en quelques jours, on a complètement abattu mon image en me consultant, en me mettant d'abord entre les bras d'un cabinet de consulting, dont j'ai su après qu'il était ce cabinet de consulting, en portant sur moi des accusations qui auraient pu paraître un peu clochemerlesque ou pittoresque au départ. J'étais type qui ne décuvait pas. Ensuite, j'étais un poseur patenté de main sur les fesses de ces dames, alors que Dieu merci, j'ai aimé les femmes. Mmh. Je n'avais jamais lu quelque part que ce fût interdit. Mmh. Mais il ne m'est jamais arrivé d'entamer une relation avec une femme en lui mettant les mains sur les fesses. Mmh. M'a pas paru très très constructif comme affaire. Voilà. Et ensuite, j'ai même été accusé d'être un type très intelligent, pas totalement intelligent, mais un serial killer capable de viol et de meurtre en série.
Mmh. Voilà. On sait que vous ne l'êtes pas. Hein.
Je ne crois pas. En tout cas, je ne me suis jamais trouvé dans cette condition. Mmh. Pourtant, j'ai quand même été confronté dans ma vie à des moments assez intenses. Et je crois que si je l'avais été, on aurait pu commencer à s'en rendre compte. Ensuite, le Crédit Agricole qui devait me prêter, qui devait me verser les 800 000 euros que l'État vous verse dès que vous avez...
Qui est garanti par l'État.
Les 800 signatures. Et que vous cochez les trois cases. Alors, les 500 signatures. Deux, la déclaration de patrimoine. Pas une petite affaire. Hein. Et trois, que vous cochez la case de la respectabilité, c'est-à-dire que vous êtes un homme qui n'a pas de casier judiciaire, que vous n'avez pas de... Voilà, que vous n'avez pas de au moins de trucs, enfin, comment je devrais dire, de mauvaises affaires apparentes sur le feu.
D'accord. Alors, ma dernière question. Imaginons que vous n'alliez pas au deuxième tour. Vous allez appeler à voter qui ? Imaginons que ce soit Macron, Marine Le Pen ou...
Malgré tout le respect que je vous porte à Audrey Asselin, à vos amis, à tous ceux qui étaient là aujourd'hui, je ne peux absolument pas répondre à votre question.
D'accord.
Pour d'autres raisons. La première, c'est que tout ce que j'ai fait, tous les efforts que j'ai consentis pour revenir après cet assassinat, ce terrible crash de 2007, j'avais quand même gagné les 25 élections uninominales auxquelles j'ai été confronté dans ma vie, donc il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire la même chose. Eh bien, j'ai fait l'effort pour revenir parce que je ne supporte pas ce que nous sommes devenus, ce que nous devenons, ce que l'on fait de l'homme, ce qu'on s'apprête à faire de lui, c'est-à-dire en exterminer au moins la moitié de la planète. Et puisque toutes les forces sont concentrées, et puis j'ai quatre enfants, je ne veux pas qu'ils soient emportés dans des rivières de sang comme ce fut le cas dans le passé. Et j'estime que quelqu'un qui a vécu, qui a eu la chance de vivre 60 ans de paix ininterrompue, qui a bénéficié très largement des services de la République, de la France, de l'État, se doit d'apporter, quand il est en mesure de le faire, sa contribution pour que le testament passe de main en main. Et c'est pour ça que j'ai décidé avec une telle détermination de me présenter.
Tout à fait, mais Jean Lassalle, je vais parler d'une hypothèse. Dans l'hypothèse où vous n'êtes pas au second tour, est-ce que vous donnerez des consignes de vote pour un candidat ?
Je ne peux pas dire ce soir cela.
Mais est-ce que vous le ferez ?
Mais si je dis que je le ferai, c'est que je l'en mets dans ma tête. Moi, je veux gagner cette élection.
Oui, ça j'ai bien compris, mais bon.
Ah mais oui, mais...
On imagine quand même.
Non. Vous imaginez tout ce que vous voulez, je ne répondrai pas à cette question.
D'accord.
Parce que ça voudrait dire que dans ma tête, j'ai déjà renoncé.
Mais en 2017, vous aviez donné des consignes pour le deuxième tour ou pas ?
Non.
Non,
j'avais
d'accord.
Dit... Puisque les électeurs ont été capables de me choisir, c'est qu'ils sont intelligents et qu'ils sont des visionnaires, ils trouveront facilement le moyen d'exprimer leur choix pour le second tour. Quant à ce qui me concerne, je voterai blanc.
D'accord. Alors Jean Lassalle, la suite de la présidentielle, dans l'hypothèse où vous ne seriez pas élu, vous allez vous présenter aux législatives ?
Je n'en sais rien.
Vous ne savez pas encore.
C'est pas le problème.
Vous n'avez pas encore pris la décision.
Non, mais parce que ça n'aurait pas de sens. À quoi ça servirait ? Mais vraiment, à quoi ça servirait que je mette ma rate au courbouillon nuit et jour? Regardez, je ne triche pas pour dire ce qui n'est pas à l'ordre du jour.
D'accord, je comprends. Bah, merci d'avoir accepté notre invitation dans Quartier Jaune. Il y a de nombreux gilets jaunes qui vous regardent sur la salle. Peut-être un petit message pour eux pour finir.
Oui, je simplement ce qu'ils savent, hein, ce que je leur ai dit depuis si longtemps. D'abord, j'ai voulu respecter scrupuleusement ce qu'ils ont dit depuis le début. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas, et sous aucun prétexte, être récupérés par qui que ce soit, ni servir de caution à qui que ce soit. Ils menaient ce combat dans l'intérêt supérieur de la démocratie, du pays, et pour qu'on baisse les prix, notamment ceux de... Ça n'a pas du tout changé, ça s'est peut-être aggravé.
Mais
même.
Ça s'est aggravé.
Oui, du carburant, et puis des engrais nécessaires. Mais ils nous ont beaucoup plus appris, je disais tout à l'heure, sur la situation de nos compatriotes en 6 mois que nous l'avions fait, nous, en 30 ou 40 ans. Et c'est là que nous avons découvert les retraites de certaines personnes en cheveux gris. Il n'y a jamais eu autant de tempes blanches à des manifestations qu'il y en a eu là. De jeunes, dans des galères épouvantables.
Et toutes les générations étaient là.
Et puis surtout des jeunes femmes de 35 ans, élevant 2 ou 3 enfants toutes seules, avec des salaires de misère. Donc ça, on ne l'avait pas vu. Et tout ce monde a quand même cohabité. J'ai pu le voir parce que j'ai suivi de proche dans plusieurs endroits de France, d'une manière remarquable. Ils nous ont réappris une forme de vie en société, de vie où l'on se respecte parce qu'on respecte l'homme, on respecte le citoyen. Donc je veux simplement dire merci pour ce que vous avez donné et merci pour cette incroyable formule que vous avez trouvée, on nous parle de la fin du monde, nous on parle de la fin du mois. Et il y a un dernier élément que j'ai en travers, que je n'oublie pas et qui fait que j'ai telle envie de me battre, c'est que le président Macron a entrepris d'aller consulter des maires dans tous les sens avec des salles archicombles. Il devait rendre un compte rendu de son travail, ce qui peut être la moindre des choses. Malheureusement, Notre-Dame de Paris brûla 1h15 avant et on n'a jamais rien su ni rien vu de ce qu'il avait retiré de ce grand brassage qui, à mon avis, était beaucoup plus de la poudre aux yeux que de véritables solutions.
Très bien. Bah, Jean Lassalle, je vous remercie. Je rappelle que vous retrouverez Jean Lassalle dimanche soir à partir de 22h sur QG, puisque dimanche soir il y aura une soirée spéciale élection présidentielle et vous serez parmi les invités de QG, une soirée animée par Aude Lancelin et David Bobin.
Et moi je vous remercie beaucoup à tous.
Merci à vous.
Bravo.